Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du mardi 3 avril 2018. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Jean-Sébastien.
Bon début de semaine officielle,
oui,
Hélène.
Oui, semaine de 4 jours.
On est fort content.
Et bon mois d'avril.
Oui, joyeuse Pâques en retard, bon poisson d'avril.
C'est vrai, est-ce que vous êtes fait prendre ou avez-vous mangé trop de chocolat?
Absolument pas, je n'ai rien vu passer sur les réseaux sociaux, je n'ai rien vu passer dans mon salon non plus.
On dirait que les gens étaient plus motivés à célébrer Pâques qu'à essayer de trouver des bons trucs, des bons tours, malgré que j'en ai vu quelques-uns circuler là, sur les réseaux sociaux. Un collègue qui a passé la journée avec un poisson dans le dos.
C'est là qu'on peut voir l'attrait que le chocolat a sur les gens.
Oui, tout à fait. Alors, allez-y, mon cher, avec les éphémérides.
Alors, 3 avril, on débute notre périple en 1369. Apparition du tir sportif en France. En pleine guerre de 100 ans, le roi Charles V promulgue une ordonnance qui interdit à ses sujets tous les jeux qui n'ont point d'utilité pour exercer nos 10 sujets au maniement des armes. Donc, jouer au solitaire, jouer au poker, au domino, ce n'était pas utile pour apprendre à être un meilleur guerrier. Alors, commençons à faire du tir sportif pour améliorer notre visu. 1347, construction de la nouvelle ville de Prague, la plus grande opération d'urbanisme au Moyen Âge. 3 avril 1882, lors de la loi Jesse James, pour qui a été inventée l'expression « ennemi public numéro 1 » est abattu par Bob Ford, un jeune homme de 20 ans qui s'était joint à la bande du criminel après avoir passé un accord avec les autorités pour ramener James vivant de préférence. La tête de Jesse James avait été mise à prix avec une récompense de 150 000 $. 150 000 $ en 1882, ça devait représenter un montant non négligeable. Quoique encore aujourd'hui, 150 000 $, ce n'est pas un montant négligeable non plus.
Non, pas vraiment. Ça se prend bien quand même.
1948, signature du plan Marshall. 1953, IBM, la compagnie informatique IBM, présente son calculateur, l'ancêtre de l'ordinateur. Cette petite bête qui pesait plusieurs tonnes et prenait beaucoup d'espace.
Un frigidaire, hein? Un mastodonte.
Un mastodonte, oui, c'est bien dit. Contrairement à la puissance qu'il pouvait dégager si on compare avec les appareils de notre temps. Mais bon, il faut bien débuter à quelque part. Mm-hmm. 1972, toujours un 3 avril, après 20 ans d'exil, visite de Charlie Chaplin aux États-Unis. 1973, premier appel depuis un téléphone cellulaire dit portatif. 1974, comme à chaque année le 3 avril, je vous en parle, début de l'éruption des tornades dites du Super Outbreak, la pire en Amérique du Nord, dans laquelle on compte plus de 148 tornades qui ont fait plus de 330 morts et 5 484 blessés dans 13 États américains et dans l'extrême sud-ouest de l'Ontario. En 2000, une cour fédérale reconnaît la compagnie Microsoft coupable de concurrence déloyale à cause de l'intégration d'Internet Explorer au système Windows. Donc, pour faire une histoire un peu courte, les gens achetaient un ordinateur. Avec l'ordinateur, ils achetaient Windows qui permettait de travailler sur l'ordinateur et était inclus le logiciel Internet Explorer qui permettait d'accéder à Internet, mais à l'époque, pour une alternative, il fallait débourser des frais. Donc, c'était une concurrence déloyale pour toutes ces autres compagnies qui faisaient office de navigateur Internet.
Les coquins.
3 avril 2010, donc on a quand même plusieurs éphémérides dans le monde de l'informatique. 3 avril 2010, sortie de l'iPad de première génération par la compagnie Apple. Le iPad a donc 8 ans aujourd'hui. Naissance en ce 3 avril de l'acteur Marlon Brando au Nebraska en 1924, lui qui nous a quittés en 2004. Et les décès, 3 avril 1990, la chanteuse de jazz Sarah Vaughan, et 1930, la soprano québécoise Emma Albini.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. De la presse, exclusif échangeur Turcot, les travaux ralentis, point de suspension, par le bruit à Varennes. Les promoteurs prennent leur élan. Les terrains de golf suscitent l'intérêt. La vente du club de Rosemère en annonce-t-elle d'autres? Une autre exclusivité, la ligne dure contre les trafiquants de fentanyl. La chronique de Nathalie Petrovski, Allô à vue d'eau. À vue d'eau, le spectacle qui s'intitule À vue d'eau, oui, mais qui s'écrit surtout A-V-U-D-O. Et la chronique de Mario Girard, Le regard n'est pas le nôtre. La vie et la santé des citoyens valent plus que le chantier Turcot. Les résidents d'une petite route secondaire de Varennes, en Montérégie, ont obtenu jeudi une injonction interlocutoire pour limiter la circulation de centaines de camions qui passent quotidiennement devant chez eux pour approvisionner le chantier de l'échangeur Turcot en pierre de Remblai. Le jugement de la Cour supérieure du Québec pourrait avoir des conséquences énormes pour le consortium responsable de la construction de l'échangeur, KPH Turcot, qui a tenté de faire valoir devant le tribunal qu'une telle décision se traduira en plusieurs dizaines de millions de dollars en dommages, pouvant atteindre jusqu'à 100 millions. Le juge Kirkland Casgrain a tout de même tranché en faveur des résidents du chemin de la Butte aux Renards, estimant que l'impact des centaines de camions circulant jour et nuit devant leur propriété est dramatique, consternant. La vie et la santé des citoyens de la Butte aux Renards valent plus que le chantier Turcot, écrit le juge dans une décision de 29 pages qui devrait faire date en matière de nuisances de voisinage. Implant mammaire, plus de cas d'une forme rare de cancer détectée. Exactement 414, c'est le nombre de cas d'une forme rare de cancer qui ont maintenant été répertoriés chez les femmes avec des implants mammaires. Le chiffre dévoilé récemment par la Food and Drug Administration, FDA, américaine, représente une augmentation par rapport aux 359 cas jusqu'alors documentés. Précision sur ce qu'il faut savoir en six questions. Je vais vous lire deux questions, deux réponses. Philippe Mercure dans la presse d'aujourd'hui. Alors, de quel type de cancer parle-t-on? Le nom complet est lymphome anaplastique à grandes cellules associées aux implants mammaires, ou LAGC, trait d'union IM. Il ne s'agit pas d'un cancer du sein, mais d'une forme rare de lymphome non-Hodgkinien qui touche le système immunitaire. Ce n'est pas la première fois qu'on fait le lien entre cette forme de cancer et les implants mammaires. La première description scientifique de la maladie remonte à 1997. En 2011, la Food and Drug Administration avait lancé un appel aux médecins afin de recueillir plus d'informations à ce sujet. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu la maladie en 2016. Les informations qui viennent d'être dévoilées par la FDA font état de 414 cas, dont 9 décès, et permettent d'avoir une meilleure idée de la prévalence et des facteurs de risque. Alors, autre question, que doivent faire les femmes qui ont des implants? Les cas de cancer ont jusqu'à maintenant touché les femmes qui avaient des douleurs, des bosses ou des enflures après la guérison complète effectuée à la suite de l'opération. La FDA ne recommande pas aux femmes qui ont des implants et qui n'ont pas de symptômes de passer des tests particuliers ni de faire retirer leurs implants. Le service de police de la Ville de Montréal doit autoriser ses agents à porter le hijab ou le turban, réclame un élu montréalais, le conseiller Marvin Rotran, estime que le silence du corps policier sur ses accessoires religieux représente une barrière invisible pour les communautés culturelles. Ce n'est pas la première fois que l'élu presse le SPVM d'inscrire noir sur blanc que ces signes religieux soient acceptés dans l'uniforme des agents. En 2016, le corps policier lui avait répondu ne pas avoir de politique précise en lien avec le port d'un hijab ni un modèle d'approuvé. Toutefois, nous restons ouverts à évaluer toute éventuelle demande à ce sujet. Plusieurs corps policiers ont déjà modifié leurs règles vestimentaires pour autoriser le hijab et le turban, dont Toronto et Edmonton. La Gendarmerie royale du Canada a intégré le turban en novembre 1990 et le hijab en janvier 2016. En fait, la police montée fournit même des hijabs et des turbans qui ont été approuvés. Ceux-ci ont fait l'objet d'essais pour s'assurer qu'ils ne nuisent pas au travail des agents. Les essais ont démontré que le port du hijab et du turban ne nuit pas à l'efficacité des membres dans l'exercice de leurs fonctions, indique la sergente Marie Damian, porte-parole de la GRC. Je m'explique mal comment d'autres corps policiers canadiens ont su adapter leurs exigences en matière d'uniforme afin de faciliter l'intégration des femmes musulmanes dans leur rang, alors que la Ville de Montréal n'a toujours pas agi en ce sens, se désole M. Rontran. Selon lui, le SPVM se prive de candidats de qualité. Il estime, par exemple, que le corps policier n'aurait jamais recruté Harjit Singh Sajjan, l'actuel ministre de la Défense qui a servi au sein de la police de Vancouver et en Afghanistan au sein des forces armées. Le nouveau Parti démocratique, NPD, entend exercer de nouvelles pressions pour que le pape François vienne au Canada afin de présenter des excuses officielles pour le rôle qu'a joué l'Église catholique dans les abus odieux qui sont survenus dans les pensionnats autochtones pendant plusieurs décennies. Le NPD a confirmé qu'il va déposer une motion à la Chambre des communes à la reprise des travaux parlementaires le 16 avril, exhortant la Conférence des évêques catholiques du Canada à inviter le pape François au Canada pour qu'il présente de telles excuses aux survivants et aux familles des victimes de sévices subis aux mains des membres du clergé, alors qu'ils séjournaient dans les pensionnats. Plusieurs milliers d'enseignants ont manifesté hier dans le Kentucky et l'Oklahoma pour réclamer une revalorisation de leurs salaires et un meilleur financement des écoles publiques. De nombreux cours ont été annulés dans ces deux États américains. Dans certains districts, les écoles étaient fermées pour cause de vacances de printemps, mais dans d'autres, les autorités n'ont pas été en mesure de trouver assez de remplaçants. Quelques 30 000 enseignants devaient manifester dans l'Oklahoma et plusieurs milliers étaient attendus à Frankfort, la capitale du Kentucky. Cette mobilisation est la dernière en date d'un mouvement lancé par les enseignants des établissements publics du pays, après une grève de 9 jours en mars en Virginie-Occidentale, qui a permis aux instituteurs de cet État d'obtenir la première hausse de salaire en 4 ans. C'est la proportion des voix validées avec laquelle le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été réélu pour un second mandat de 4 ans, dans une élection sans surprise où son seul adversaire était aussi l'un de ses partisans. Le taux de participation à ce scrutin de 3 jours a été de 41,5. 4 ONG locales ont critiqué hier dans un communiqué un processus électoral biaisé. Et c'est dans la mise à jour à la presse, une femme à la tête de CBC Radio-Canada, pour la première fois de son histoire, la société CBC Radio-Canada sera dirigée par une femme. Il s'agit de Catherine Tate, une productrice anglophone bien connue dans le milieu de la télévision et du cinéma, selon ce qu'a appris la presse canadienne.
Arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis du pays Cam, la tête dans le ciel, les montagnes ont une âme sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours des sommets, des façades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. T'attends quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, on attend quoi? arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend. Perdu depuis toujours, d'Odyssée en l'Iliade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. T'attends quoi? Que la terre ne ronde, que le soleil ne fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, mais j'attends quoi?
Zaz, t'attends quoi?
En une du devoir, Winnie Madikizela Mandela, lors du 54e congrès de l'ANC en décembre dernier, 1938-2018, Winnie Mandela, icône controversée. Le couple qu'elle a formé avec Nelson Mandela personnifiait la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mère porteuse rémunérée, le cabinet Trudeau est divisé. Québec financera les études d'impact des minières. Le Monde, affaire Skripal, Londres pourrait être derrière l'empoisonnement de l'ex-espion, selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Une nouvelle guerre froide, une chronique de François Brousseau. Commerce, la Chine prend des mesures punitives contre les États-Unis. Idée, leçon de Camus, une chronique de J.R.R. plutôt MacArthur. Et Plan et logement, une chronique de Jean-François Nadeau. L'amour inavoué des cônes oranges. Éco-habitation vélo-camion, une énième consultation publique critiquée. Icône de la lutte contre l'apartheid, Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'âge de 81 ans lundi. La mort de l'ex-épouse du premier président sud-africain noir, Nelson Mandela, plonge le pays dans le deuil, laissant en mémoire l'image d'une femme courageuse mais fort controversée. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, patron du Congrès national africain, ANC, à la pointe de la lutte anti-apartheid, a salué la mémoire de cette voix du défi et de la résistance. Il a invité la population à lui rendre un dernier hommage le 14 avril lors d'obsèques officielles. C'était une femme qui n'avait pas froid aux yeux, extrêmement intrépide. Elle était l'incarnation de la détermination, mais aussi la définition même du paradoxe, confie l'ex-correspondante à l'étranger pour Radio-Canada, Lucie Pagé, contactée à Johannesburg par Le Devoir. Dans les années 80, son discours est progressivement devenu plus violent. En 86, elle a notamment appelé à libérer ce pays avec des allumettes, une référence au supplice du collier enflammé autour du cou des traîtres. Par la suite, plusieurs dérapages politiques et scandales de corruption ont terni sa réputation. Elle se retrouve même accusée de violence et de meurtre après que le club dont elle était la présidente eut tué un jeune militant de 14 ans, Stompy CPI, en 1988. Winnie, c'est comme un beau fruit qui a mal mûri, qui a même pourri vers la fin, résume de façon simple et imagée Mme Pagé. Il n'en reste pas moins qu'elle a eu une importance indéniable pour l'Afrique du Sud, insiste Lucie Pagé. Et Nelson Mandela n'aurait peut-être pas autant marqué l'histoire si son ex-femme n'avait pas tenu le flambeau pendant son emprisonnement, lui donnant le courage de tenir le coup. Le cabinet de Justin Trudeau est divisé sur le sujet de la rémunération des mères porteuses. La semaine dernière, le député libéral de Montréal, Anthony Housefather, a annoncé qu'il déposerait sous peu un projet de loi pour légaliser la rétribution des mères porteuses et des donneurs de sperme ou d'ovules. Depuis 2004, la rémunération de ces pratiques est interdite et passible d'une peine de prison pouvant atteindre 10 ans et d'une amende maximale de 500 000 $. La loi n'a été appliquée qu'une seule fois en 2014. Une amende de 60 000 $ avait été imposée. La ministre de la Condition féminine, Mariam Monsef, n'a pas d'emblée fermé la porte à l'idée de son collègue député. Sa collègue aux relations couronne autochtone, Caroline Bennett, appuie sans réserve le projet de loi. « J'ai toujours pensé que ce serait une erreur de criminaliser à nouveau le corps des femmes. » Dans le camp des ministres favorables se trouve aussi Scott Brisson, le président du Conseil du Trésor. M. Brisson et son conjoint Maxime Saint-Pierre ont eu recours à une mère porteuse de Los Angeles pour concevoir leur jumelle en 2014. En se rendant aux États-Unis, le couple a échappé à l'interdit de rémunération qui s'applique au Canada. C'est trop cher pour beaucoup de familles, selon M. Brisson. D'autres ministres se sont montrés beaucoup plus réticentes. C'est le cas de la ministre de l'Emploi, Patricia Ajdou, une ancienne travailleuse sociale dans le nord de l'Ontario. La ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, s'est contentée de répondre que pour elle, ce qui prime est d'assurer la santé et la sécurité des femmes. Quant à Marie-Claude Bibeau, elle dit avoir besoin de plus de temps pour réfléchir à la question avant de se prononcer. C'est une question d'éthique, selon elle. Le service de police de la Ville de Montréal interrompt ses recherches dans la rivière des Prairies pour retrouver Ariel Jeffrey Kouakou, ce garçon de 10 ans disparu depuis 3 semaines dans le quartier Hunsic-Cartierville à Montréal. Le courant est très fort dans la rivière et la présence de Frasile rend le travail des policiers trop périlleux, a expliqué lundi l'inspecteur Yann Lafrenière du SPVM. Beaucoup d'efforts ont été consentis vendredi et samedi pour tenter d'élucider ce qui est arrivé au jeune Ariel, a fait valoir M. Lafrenière. Un chien pisteur de la Gendarmerie royale du Canada de Halifax, spécialement entraîné pour détecter la présence de restes humains sous l'eau, a participé aux recherches. Un brise-glace d'Hydro-Québec a permis d'explorer de nouveaux recoins de la rivière et un sous-marin robot de l'Agence des services frontaliers a été envoyé sous l'eau. Tous ces efforts ont été vains. Le père du petit Ariel Kouadio, Frédéric Kouakou, a dit être content de l'interruption des recherches dans la rivière. « Ça me donne encore plus d'espoir. C'est ma thèse de l'enlèvement qui est encore solide », a-t-il fait valoir. Les quelques 4 600 professionnels de Revenu Québec dont la convention collective n'a pas été renouvelée depuis 3 ans manifesteront mardi dans 10 villes du Québec dans l'espoir de faire avancer leurs négociations qui traînent en longueur. Des manifestations auront lieu sur l'heure du midi à Québec, Montréal, Rimouski, Jonquière, Trois-Rivières, Gatineau, Rouyn-Noranda, Laval, Longueuil et Sherbrooke. Et une seconde manifestation se tiendra à Québec de 10h à 10h15. Ces employés travaillent comme comptables, analystes en procédés informatiques et agents de gestion financière. Ce sont eux qui s'assurent que les impôts sont bien payés et à titre d'experts qui luttent contre l'évasion fiscale. Le nouveau président élu du Costa Rica, Carlos Alvarado, a entamé lundi des consultations avec les 7 forces politiques représentées au Parlement en vue de former un gouvernement d'union nationale quand il prendra ses fonctions le 8 mai. M. Alvarado, ex-ministre du Travail de centre-gauche de 38 ans, a largement remporté dimanche avec plus de 60 % des voix le second tour de la présidentielle face à Fabricio Alvarado, sans lien de parenté, pasteur évangélique de 43 ans. Élu pour 4 ans, le nouveau président est favorable à la laïcité et à plus d'interventions étatiques dans l'économie. Il a déclaré vouloir unir le pays pour le faire aller de l'avant. Des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés dimanche sur la place Saint-Pierre à Rome pour assister à la messe de Pâques célébrée par le pape François. Les pèlerins ont dû se soumettre à des mesures de sécurité très strictes pour entrer sur le site, dont des détecteurs de métal, des fouilles et la fermeture de plusieurs rues. Du balcon de la basilique Saint-Pierre, le Saint-Père a donné sa bénédiction Urbi et Orbi et a livré son message de Pâques. Le souverain pontife a souhaité la paix dans un monde marqué par les conflits et les guerres, faisant allusion entre autres à la Syrie dont le peuple souffre depuis longtemps. Ses vœux visaient aussi les régions du Moyen-Orient et les Corées, de même que les pays d'Afrique minés par la famine, les conflits endémiques et le terrorisme. Les forces du président syrien Bachar al-Assad se rapprochent d'une victoire dans la Ghouta orientale, ancien bastion insurgé aux portes de Damas, où des rebelles du groupe Jaish al-Islam ont commencé lundi à évacuer leur dernière enclave autour de la grande ville de Douma. L'opération, fruit d'un accord avec la Russie, alliée du régime syrien, devrait prendre plusieurs jours. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous invite à rester là pour la suite de l'émission avec la revue de presse du Journal de Montréal.
Marchedelespoir.ca.
One lonesome highway into town, and most of the people, they worked underground. Two record shops, one's a friend of mine. Six restaurants, well, what more could you want in this northern town sky? Can't believe the way that you're shining on me. Northern town sky. John is working late, he's working late tonight now. Nothing here but time, still you're on my mind. And look who's back in town, well it's been so long. And how about you and I get together later on in this northern. Friend, how on my way back home again?
On vient d'entendre la pièce Northern Town Sky. C'était interprété par Ponto.
À la une du Journal de Montréal, on voit Denis Coderre, cyberattaque sur 869 donateurs, d'équipe Coderre. Fuite massive d'infos personnelles, adresse, carte de crédit, date de naissance, numéro de téléphone. Notre bureau d'enquête vient de recevoir par une source anonyme une liste de fiches informatisées de centaines de gens qui ont donné 300 $ le maximum permis et moins au parti de Denis Coderre entre 2014 et 2016. Ça peut aller aussi jusqu'à 5 $ minimum. Tous les renseignements qui permettraient à une personne mal intentionnée de commettre des fraudes d'identité s'y trouvent. Le ou les pirates ont même obtenu le code de vérification à 3 chiffres situé à l'arrière de la carte de crédit des donateurs. Pourtant, en février dernier, le parti équipe Denis Coderre, pour Montréal, avait dit à ses membres de ne pas s'inquiéter après que son site Web a été victime d'une cyberattaque en novembre 2017. Le directeur général du parti, Gilbert Decoste, s'était alors fait rassurant en expliquant que les données personnelles n'avaient pas été compromises. Toutefois, une brève note laissée par l'expéditeur anonyme dans l'envoi à notre bureau d'enquête se moque de cette affirmation de Gilbert Decoste, le traitant même de « menteur ». Notre bureau d'enquête a réussi à joindre suffisamment de donateurs visés par la fuite de manière aléatoire pour conclure que le vol de données était bel et bien sérieux. Le nom de Jean-Pierre Léger, l'ancien patron des rôtisseries Saint-Hubert, est sur la liste. Il s'est dit inquiet de la masse d'informations accumulées sur lui pour un don d'à peine 5 $. En général, tout ça est protégé, a-t-il commenté. Alors, les renseignements suivants ont été dérobés pour chaque donateur: nom, sexe, date de naissance, adresse de résidence complète, nom de l'employeur, numéro de téléphone, des cellulaires dans la plupart des cas, adresse courriel, toutes les informations sur leur carte de crédit. Et parmi les victimes du piratage, il y a Raymond Bachand, Sylvie Bernier, Alain Simard, Nathalie Bondil, Gilbert Rozon, Henri-Paul Rousseau, Jean-Pierre Léger, Laurent McCutcheon, Alexandre Taillefer, Guy Laliberté, Marie Montpetit, Monique Jérôme-Forget. Les renseignements obtenus dans la cyberattaque contre le parti de Denis Coderre sont amplement suffisants pour frauder l'identité des donateurs, selon des experts. « C'est vraiment pas rigolo, ça c'est certain », observe Geneviève Lajeunesse, directrice des opérations de Crypto-Québec. Selon elle, un fraudeur bien outillé pourrait utiliser ses numéros de carte de crédit pour faire des achats en ligne au nom des victimes. On peut tout faire avec ces informations, surtout avec la qualité des gens qui sont représentés sur cette liste-là, observe pour sa part Claude Sarrazin, expert en sécurité privée et président de la firme Circo. Le fraudeur peut transférer ces informations-là, les vendre à d'autres pour qu'ils les utilisent, et ça a une très grande valeur, poursuit-il. La directrice des opérations de Crypto-Québec fait remarquer que s'il est possible pour les victimes de changer leur numéro de carte de crédit, il est beaucoup plus difficile de changer d'adresse et de numéro de téléphone. Son coup de poing au visage lui coûtera plus de 8 000 $. Un joueur de hockey qui a brisé la mâchoire d'un adversaire en lui assénant un coup de poing lors d'un tournoi « amical » entre guillemets, en Outaouais, devra verser plus de 8 000 $ à sa victime. Ainsi en a décidé récemment un juge de la Cour du Québec en condamnant Nicolas Moncion. Cette compensation peut sembler élevée comparativement à certaines amendes imposées aux millionnaires de la Ligue nationale de hockey, comme celle de 5 000 $ dont Brad Marchand, des Bruins de Boston, a écopé pour avoir donné un coup de bâton au visage, double échec d'un joueur des Flyers de Philadelphie dimanche. Mais au départ, Mathieu Labrosse réclamait près de 15 000 $ à son assaillant, ayant été contraint de « manger mou » entre guillemets durant plusieurs mois, en raison de sa blessure subie à l'aréna Stéphane Richer de Saint-André-Avelin le 2 avril 2016. L'incident est survenu pendant un tournoi amical et sans contact qui visait à amasser des fonds pour le hockey mineur de la région. Le défenseur Moncion et l'attaquant Labrosse étaient tombés sur la glace l'un par-dessus l'autre lors de ce match âprement disputé, a relaté le juge Steve Guénard. Un début d'escarmouche s'en est suivi et la brosse qui n'avait pas jeté les gants et ne semblait pas enclin à se battre s'est fait empoigner par derrière par un coéquipier de Moncion. Sans réfléchir, j'ai donné un coup de poing de la droite, a admis le fautif en cour. D'après le magistrat de la division des petites créances, le coup de poing du défendeur, bien que peu prémédité, était volontaire, délibéré et très violent. La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques s'est déroulée hier dans le jardin de la Maison-Blanche en présence du président américain Donald Trump, de son épouse Melania et bien sûr du lapin de Pâques. Prenant la parole du haut du balcon, Truman, le chef d'État a remercié sa conjointe qui était chargée de superviser l'organisation de l'événement. Baron, le jeune fils de Melania et plusieurs des petits-enfants du président étaient présents. La ville fait appel à un trappeur pour les coyotes. La métropole a accordé un contrat de 30 000 $ pour les services de pistage et de trappage de coyotes sur l'ensemble de son territoire. Dans une copie du contrat obtenu par le 24 heures, la ville mentionne vouloir mener des interventions pour capturer les coyotes menaçants. Le coyote vit depuis plusieurs années sur l'île de Montréal, mais il semblerait qu'il est devenu dangereux pour les animaux domestiques et parfois même pour les citoyens au cours de la dernière année. Dans l'arrondissement Antique-Cartierville, la situation est sans précédent, selon la mairesse. Les gens ont peur pour eux, mais surtout pour leurs enfants, indique Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Antique-Cartierville. Le problème a commencé quand des gens se sont mis à nourrir les coyotes en 2017. On ne devrait jamais faire ça, c'est la raison principale pour laquelle ils se sont mis à attaquer et ne plus avoir peur des humains. Quelques 2000 demandeurs d'asile africains présentement en Israël pourraient toujours venir s'établir au Canada malgré la suspension d'un accord entre Israël et les Nations unies sur la relocalisation de milliers de migrants, a rapporté le Globe and Mail. Hier, le gouvernement israélien avait annoncé s'être entendu avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés afin de relocaliser 16 250 demandeurs d'asile dans des pays de l'Occident, tout en acceptant de régulariser le statut de presque autant de migrants. Or, le président Benjamin Netanyahou a fait volte-face quelques heures plus tard en suspendant l'entente, après avoir été la cible de critiques de résidents de Tel Aviv, où la majorité des migrants demeurent. Ces directeurs qui rendent leurs étudiants fous, épuisement, sentiment d'être abandonné, résultat de recherches sabotées. Partout au Québec, des étudiants de maîtrise et de doctorat se retrouvent emprisonnés dans un climat toxique et terminent leur parcours au bord de la dépression. Deux années de cauchemars, c'est ainsi que Kevin, non fictif, décrit la période qu'il a passée à travailler sur son mémoire de maîtrise. Pendant plus d'un an, son directeur n'était jamais disponible pour commenter son travail et l'a pratiquement laissé à lui-même. Le journal a parlé à 5 universitaires qui, comme Kevin, ont préféré taire leur vrai nom par crainte de représailles. « Ton document a une belle épaisseur » est la seule rétroaction qu'a reçue Alicia, non fictif, de sa directrice de thèse à propos du fruit d'un an de travail. Tout au long de son doctorat à l'Université Laval, celle-ci lui a aussi fait vivre un enfer, en changeant constamment d'idées et en rabaissant sa besogne, raconte-t-elle. L'encadrement des étudiants qui doivent passer des années à rédiger un mémoire ou une thèse est particulier parce qu'il repose généralement sur un seul professeur. Si la relation est mauvaise, tout le parcours en est teinté.
cœur se forme, se déforme, comme des océans. La routine chloroforme, la vie des honnêtes gens. Vouloir paraître, passer pour avoir l'air. Nouveau credo de ce nouveau millénaire. Et pendant ce temps, Marie a peur. Faudrait penser à changer l'heure. La jeunesse éternelle, à n'importe quel prix. Si la beauté donne des ailes, le pouvoir engendre le mépris. La rumeur s'en excuse, le temps est vraiment sans remords. L'amour est seul juge pour te dire si t'as raison, si t'as tort. Et pendant ce temps, Marcel se meurt. Personne ne prie, personne ne pleure.
Anciennement à la tête de la formation Les Parfaits Salauds, c'était Rémi Cazet qu'on vient d'entendre avec la pièce « Faudrait penser à changer l'heure ».
Les journaux régionaux dans la tribune sous la plume de Tommy Brochu. Du bon dans l'affaire Walmart. Quelques jours après que Walmart ait mis fin à son programme d'embauche pour les gens ayant des déficiences intellectuelles et soulevant un tollé dans la population, le directeur général de Mon Chez Nous, David Caron, voit du positif dans cette affaire. Enfin, les personnes handicapées sont défendues et considérées dans l'opinion publique, analyse-t-il. David Caron est satisfait de constater l'appui qui est donné aux gens handicapés. « Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans la situation de Walmart », affirme-t-il. « La mauvaise, c'est que ces personnes-là se retrouvent avec rien. La bonne, c'est qu'il y a 30 ans, cette décision serait passée sous le radar. Ce que je trouve très positif, c'est qu'on s'intéresse à l'impact sur ces gens-là », poursuit M. Caron. « Il y a une réussite de société, mais un échec au niveau du leadership de Walmart dans son programme. » David Caron, qui dirige aussi l'entreprise ProBex, applaudit les entreprises qui favorisent l'intégration des gens ayant des déficiences. Ça met en valeur l'avancée et les efforts qu'on fait pour l'intégration sociale. Toutes les autres entreprises qui accueillent les personnes handicapées peuvent se féliciter. Il ne s'agit pas d'être contre Walmart, il s'agit d'être pour l'intégration sociale. Je pense que Walmart ne mérite pas ces gens-là, cogite-t-il, ajoutant que tous les résidents de Mon Chez Nous travaillent ou s'occupent de différentes façons. Paul McKenzie, le patron d'Arkel, une entreprise d'une vingtaine d'employés, accueille entre 5 et 10 personnes handicapées. Selon lui, travailler avec ces gens-là est très agréable. Ils font partie intégrante de nos opérations, assure-t-il. Ils font du bon travail. Il écrit même, ils font du vrai bon travail. C'est certain qu'ils sont moins vite qu'un employé régulier, mais chacun a sa spécialité et chacun y trouve son compte. C'est une situation gagnante-gagnante pour l'individu et pour l'entreprise, poursuit M. McKenzie. Les patrons doivent être prêts à changer certaines méthodes de travail pour engager un employé avec un handicap. À tout moment, ils peuvent venir dans le bureau pour nous demander une accolade, sourit le patron d'Arkel. Il faut être prêt pour ce genre d'intervention. Je dirais que ça donne une culture très humaine au travail. On aime ces gens-là et ils nous rendent l'appareil, renchérit-il. Les petites entreprises qui embauchent des personnes handicapées ne le regrettent pas, pense M. McKenzie. C'est vraiment un succès chez nous. On en tire un bénéfice économique et un bénéfice au niveau de la culture de l'entreprise. Je suis surpris que Walmart n'ait pas réalisé le contexte global de l'embauche de ces gens-là. Pour une entreprise de petite taille comme la nôtre, c'est vraiment favorable, résume-t-il. Dans le droit, Justine Mercier, guichet automatique, la MRC veut prévenir les coûts. Le retrait de guichet automatique du mouvement des jardins dans la petite nation inquiète le Conseil des maires de la municipalité régionale de Comté, Vallée de la Gatineau, qui a adopté une résolution pour faire part de sa vive opposition à ces décisions et à toute modification qui pourrait être annoncée sur son territoire. L'annonce de la disparition de guichets automatiques à Plaisance, Ripon et Notre-Dame-de-la-Salette n'a rien de rassurant aux yeux des élus de la vallée de la Gatineau. Considérant que des caisses des jardins étudieraient la possibilité de diminuer le nombre de guichets automatiques dans d'autres régions, le Conseil des maires de la MRC a décidé de lancer un avertissement clair au mouvement des jardins. Une résolution adoptée il y a 2 semaines stipule ainsi que le Conseil des maires de la MRC signale sa vive opposition aux vagues de retrait de guichets automatiques et de fusion et fermeture de points de service au Québec, particulièrement à toute modification qui pourrait être annoncée dans la vallée de la Gatineau. En entrevue, la préfète de la MRC, Chantal Lamarche, souligne que les maires tiennent mordicus à garder les 2 caisses actuelles, situées à Gracefield et à Maniwaki, de même que les guichets automatiques installés à Casabazoua, Messine et Grand-Remous. Même si aucune annonce évoquant la disparition de ces services n'a eu lieu, Mme Lamarche explique que la résolution a été adoptée pour prévenir un éventuel coup pour dire non tout de suite. Une tempête de neige sur Québec mardi. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est une nouvelle dans Le Soleil, David Rémillard. Jusqu'à 15 cm de neige, voire plus, sont attendus sur Québec ainsi que les régions plus à l'est à compter de mardi soir jusqu'à mercredi au passage d'une tempête. Si Environnement Canada décrit le système dépressionnaire en provenance du centre des États-Unis comme une tempête printanière, c'est un retour de l'hiver qui attend de nombreux Québécois. Dans un avertissement émis lundi après-midi, Environnement Canada affirme que les précipitations de neige seront parfois fortes, causant de la poudrerie et réduisant la visibilité. Les accumulations pourraient dépasser 15 cm dans les régions de Québec, de Lévis, de Bellechasse, de Lotbinière, de Portneuf, de Charlevoix et de Montmagny-Lillet. Les usagers de la route devront également être prudents dans la réserve faunique des Laurentides. La trajectoire de cette tempête étant encore incertaine pour les régions plus à l'est, des bulletins spéciaux ont été émis pour le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et la Gaspésie. Si la tempête devait frapper ces secteurs, Environnement Canada prévoit des quantités de neige semblables, vent et poudrerie inclus. Plus au sud et à l'ouest, les précipitations devraient tomber sous forme de pluie ou de pluie verglaçante. C'est le cas pour les régions de Montréal, Gatineau et Sherbrooke. Nouvelliste Gabriel Delisle, si plusieurs souhaitent depuis quelques semaines l'arrivée du printemps et la fonte des neiges, les proches de Mélissa Blais espèrent depuis le début de l'hiver le retour du temps doux. La fonte du couvert de neige aidera peut-être à retrouver des indices qui permettraient d'élucider le mystère de la disparition de cette mère de famille. J'avais hâte que l'hiver achève. Les recherches vont pouvoir reprendre, espère François Venn, le conjoint de Mélissa Blais, disparu depuis le 2 novembre dernier. Depuis la disparition de Mélissa Blais après une soirée dans les bars de Louisville, la Sûreté du Québec a multiplié les efforts pour la retrouver, ou à tout le moins retrouver des traces qu'elle aurait laissées derrière elle. En février dernier, les plongeurs de la SQ se sont rendus de nouveau aux abords de la petite rivière du Loup pour y effectuer des recherches. Ceux-ci n'ont toutefois pas pu se mettre à l'eau à ce moment. Il semblerait, précise François Venn, que le signal du téléphone cellulaire de Mélissa Blais a été capté pour la dernière fois à cet endroit. Alors que la glace disparaît, il croit bien que les policiers y retourneront lorsque les conditions seront favorables et que la glace sera fondue. Et dans le quotidien, Annie-Claude Brisson, l'excellence du travail de l'artiste Louis Julien est une fois de plus confirmée grâce à une reconnaissance d'envergure mondiale obtenue récemment. Le peintre de Jonquière a été nommé officier académicien par la Mondial Art Academia. Fondée en 2013, la Mondial Art Academia regroupe des artistes provenant de partout sur la planète. Ceux qui en font partie œuvrent dans plusieurs domaines, soit la peinture, la sculpture, l'art numérique et la photographie. D'ailleurs, Louis Julien a été le 24e artiste à joindre le regroupement créé par Pierrick R. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus dans cette association, alors que seulement 1% des candidatures sont retenues. Pour en faire partie, les artistes doivent proposer un style unique au monde. Dans le cas de Louis Julien, l'architecte de formation offre un style relativement abstrait qui fait, selon ses dires, voyager les amateurs d'art. Obtenir le grade d'officier est loin d'être chose facile. Avant d'obtenir la mention, l'artiste doit avoir été chevalier académicien pendant 4 ans. Il doit également avoir accumulé des titres importants. Officier depuis peu, Louis Julien envisage déjà de devenir commandeur. La patience et le travail seront nécessaires puisque cette ultime étape est possible après 8 années à titre d'officier. Bien sûr, l'artiste doit, une fois de plus, cumuler plusieurs titres d'envergure mondiale. Le quotidien des quotidiens se poursuit après la pause et la chanson avec une demi-heure pour vous d'actualités culturelles et de sujets libres. Restez avec nous.
Magazine disque à quelque part à 2 pas du Mile End, tu vendais des vieux vinyles usés dans une boutique. T'avais 17 ans pis la vie c'était loin d'être Disneyland. Mais quand la cloche a retenti au-dessus de la porte, toi c'était l'amour qui rentrait
La neige fondait deux fois plus vite en dessous de ses bottes. Puis le soleil la suivait entre les volets. T'as presque arrêté de respirer quand t'as pris un vieux record des Clash. Qu'a dit, penses-tu que tu peux me trouver? Le tout premier de Johnny Cash te dit, ben, je peux bien essayer de car passer dans une semaine en priant pour qu'elle aille pas regarder dans le bac où il y en avait une dizaine. Quand t'es finalement revenu une semaine plus tard, t'avais caché le disque qu'elle cherchait derrière ceux d'Elvis. T'avais la phrase parfaite pour l'inviter un soir. Il fallait seulement que t'attendes le moment propice. S'est approché du comptoir en y mettant sa main, a frôlé la tienne, a dit pas de trace de ce que je vais avoir, de bégayer peut-être dans une semaine. Dam, 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 dam. Le jeudi suivant, t'avais pas dormi de la nuit, tellement t'étais nerveux de dire tu qu'on sorte quelque part. T'avais choisi d'y offrir le vieux record de Johnny, en souhaitant juste que ça mettrait les chances de ton bord. T'as même pas eu le temps de l'inviter, a pris le disque puis à te lancer. Depuis le temps que je rêve de l'entendre, viens-tu l'écouter dans ma chambre? Tu as souri malgré ta gêne, tu l'as suivi jusque chez elle. Johnny chantait I Walk the Line et ta main glissait sur ses dentelles. Et là, tu l'as remarqué, sa tablette en plexiglas, son autre exemplaire usagé, du premier disque de Johnny Cash.
La formation Deux Frères et la pièce 33 tours.
Les actualités culturelles, la chronique de Nathalie Petrovski intitulée Allô Avudo, A-V-U-D-O. Avudo, le spectacle multimédia en hommage à l'histoire de Montréal présenté l'été dernier près du quai King Edward du Vieux-Port, fut l'une des plus belles surprises du 375e anniversaire de la ville. Les 170 000 spectateurs qui se sont assis dans les gradins à la tombée de la nuit, dans la douceur de l'été montréalais face à l'eau scintillante du fleuve, n'ont pu qu'être séduits et enchantés par ce magnifique voyage dans le temps, au confluent de la poésie et de la technologie. L'équipe de Daniele Finzi-Pasca, dont la regrettée Julie Hamelin, conjointe du metteur en scène, a travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans, a fouillé dans différentes banques d'archives pour en extraire une matière riche et rarement exploitée et reconstruire avec force images et projections l'histoire de Montréal depuis l'arrivée des Premières Nations jusqu'à nos jours. Moins imposant que le moulin à images de Robert Lepage à Québec, qui demeure à ce jour la plus grande projection multimédia extérieure au monde, Avudo se déployait néanmoins à travers une installation spectaculaire, constituée de 104 conteneurs maritimes s'élevant aussi haut que des tours de 11 étages. À ces tours s'ajoutaient des fontaines d'eau qui se métamorphosaient sous nos yeux ébahis en écran de cinéma de 30 mètres, donnant aux images projetées un effet 3D saisissant et de toute beauté. La dernière représentation d'Avudo a eu lieu le 2 septembre. En principe, le spectacle devait revenir dans le Vieux-Port pour au moins quelques étés. C'était le souhait de l'ex-maire de Nicodère et des gens de la compagnie Finzi-Pasca. Pour deux raisons bien simples, d'abord pour que les Montréalais purs béton ou les gens de l'extérieur de la ville qui n'avaient pu obtenir de billets gratuits l'été passé puissent profiter à leur tour de l'expérience immersive d'Avudo, mais aussi pour que les fonds publics de plusieurs millions investis dans le spectacle ne soient pas jetés par la fenêtre ou avec l'eau du bain, et participe plutôt à un développement culturel et artistique durable. la compagnie Finzi Pasca était prête à relever le défi à nouveau, au plus grand bonheur de Tourisme Montréal et sans doute de la Société du Vieux-Port, même si son porte-parole ne m'a jamais rappelé. Mais il y a un peu plus d'une semaine, à vue d'eau, est tombé à l'eau, noyé, pour ainsi dire, par l'administration Plante qui a décidé tout bêtement de ne pas le reconduire. Pour quelle raison, au juste? Un manque d'argent? Pas vraiment. Plutôt un changement de politique, comme l'a expliqué l'attaché de presse de la mairesse. Effectivement, notre administration a choisi de ne pas réinvestir dans ce spectacle créé pour le 375e anniversaire. Nous sommes présentement en discussion avec nos partenaires concernant l'utilisation des sommes restantes afin de pérenniser des activités culturelles dans les 19 arrondissements de la ville. Nous souhaitons privilégier l'offre culturelle et l'accès à la culture dans les quartiers, a écrit Geneviève Jutras. En lisant ce message, difficile de ne pas penser à la ville de Québec qui, dès la fin des festivités de son 400e anniversaire, s'est dépêchée de voter en faveur du retour du moulin à images et de débloquer des sommes, 25 millions, pour prolonger sa vie de 5 ans. Tous s'entendent pour dire que ce fut une excellente décision autant pour le tourisme à Québec que pour la population locale qui ne s'est pas laissée lasser de communier à son histoire projetée tous les soirs d'été sur les silos de grains de la Bunge, ou la Bunge, B-U-N-G-E. Marc-André Goyer, chargé de projet chez Finzi Pasca, raconte que des démarches ont été entreprises de part et d'autre depuis des mois pour qu'Avudo revienne dans le Vieux-Port. Il affirme qu'Alain Gignac, directeur de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, est même allé cogner aux portes du gouvernement à Québec. Mais le gouvernement provincial aurait refusé de prendre le risque d'un nouvel investissement, sachant que la Ville de Montréal était sur le point de jeter Avudo à l'eau. À Tourisme Montréal, la porte-parole s'est dite déçue par la décision de l'administration Plante, mais elle a ajouté que les attraits du Vieux-Port demeurent avec ou sans Avudo. J'ai voulu savoir quels attraits au juste. La porte-parole n'en avait qu'un en tête, la grande roue. Un manège pour remplacer une magnifique leçon d'histoire et de poésie en 3D? Vraiment. Pour ceux qui l'ignorent encore, cette grande roue, qui semble tourner dans le vide à longueur d'année, offre 42 cabines chauffées ou climatisées selon la saison. Il en coûte 25 $ par adulte et 19,75 $ par enfant pour avoir le privilège d'admirer le panorama de Montréal sans que personne ne vous rafraîchisse la mémoire ou ne vous fasse rêver en vous racontant l'histoire de la ville. Et si vous vous demandez combien dure un tour de grande roue, et si vous en aurez pour votre argent, sachez qu'un tour ne dure ni une heure ni deux, mais 20 petites minutes et puis s'en vont. Une aubaine, quoi! Les sommes restantes des célébrations du 375e anniversaire de Montréal avoisineraient les 7 millions, a-t-on appris en décembre dernier. La compagnie Finzi Pasca aurait eu besoin du quart de cette somme pour remettre Avudo sur les rails. Ce n'est pas donné, c'est vrai, mais ce n'est pas la mer à boire non plus. Surtout pour un spectacle de cette envergure, à la fine pointe de la technologie, qui met en valeur la créativité des studios multimédia montréalais et dont l'originalité, la force d'évocation et la force d'exécution en font un attrait touristique indéniable. Mais investir pour célébrer notre histoire et notre savoir-faire ne semble pas être une priorité pour la nouvelle administration montréalaise. L'approche quartier est désormais ce qui compte, quitte à jeter nos bijoux précieux et nos choux gras à l'eau. Le cinéaste québécois Christian Duguay portera à l'écran la populaire série de bande dessinée Magasin général de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Cette production québécoise de Roger Frappier, à laquelle participe aussi la société française Polaris, mettra en vedette une distribution de prestige dans laquelle figurent Nils Schneider, Catherine Saint-Laurent, Roy Dupuis, Emmanuel Schwartz, Mélissa Desormeaux-Poulain, David Lahaye, Mario Saint-Amand et Raymond Bouchard. Campé dans un petit village du Québec des années 20, l'intrigue évoque l'émancipation d'une société jusque-là repliée sur elle-même au contact d'un inconnu. Ce film sera distribué chez nous par MK2 Myland. Un nouveau dé annoncé. Karine Vanasse a donné naissance à son fils. La comédienne Karine Vanasse a accouché de son premier enfant au cours du week-end. La vedette de Blue Moon et de Cardinal en a fait l'annonce pour son compte, sur son compte Instagram, où elle a publié une photo en noir et blanc d'un lit d'hôpital et d'un ballon. On n'a pas récolté l'eau de Pâques cette année, mais on a connu notre plus belle récolte de coco. Meilleure récolte de Pâques. La femme de 34 ans et son amoureux, l'homme d'affaires Hugues Harvey, ont accueilli un petit garçon. Prendre un selfie, c'est tout un art. Il faut choisir le bon angle, effacer le bout de bras péniblement tendu pour rendre au mieux l'ovale du visage, lever le menton et surtout sourire. Pas si surprenant donc que cette fièvre de l'autoportrait à l'ère des réseaux sociaux ait désormais son musée à Los Angeles. Curieux d'explorer, en s'amusant, tendance et origine de ce phénomène, les deux créateurs du musée des selfies, Tommy Hunton et Ter Mamedov, ont eu l'idée de cette exposition interactive. Les selfies ont une histoire étonnamment riche qui remonte à aussi loin que l'humanité crée de l'art, estime Tommy Hunton. Statues imitant le célèbre David de Michel-Ange avec un smartphone, rose à la main, trône fabriqué en perche à selfie, mais aussi consigne de sécurité du gouvernement russe diffusée après plusieurs accidents mortels, ou encore l'autoportrait pris par un singe avec l'appareil du photographe David Slater. Avec leur exposition, les fondateurs du musée veulent démontrer que ces égoportraits sont bien plus qu'une simple photo. Le succès du film 120 battements par minute de Robin Campillo, qui raconte l'histoire d'ACT UP Paris dans les années 90 et qui a remporté 6 Césars, a causé des problèmes au sein même de l'organisation, dont les dirigeants ont démissionné en bloc samedi. Dans un communiqué, l'ancienne équipe évoque une transition brutale créée par l'engouement pour le film, qui a apporté à ACT UP un afflux de militants, déjà politisés et expérimentés dans d'autres luttes, notamment antiracistes. Le clash ne semble pas avoir abouti à une cohésion selon le comité des missionnaires. Le travail d'expertise, arme d'ACT UP Paris au-delà de l'image, a été relégué au dernier plan au profit du commentaire permanent et de la critique spectacle. Où lutterons-nous maintenant contre le sida? Certainement plus à ACT UP Paris, ont annoncé les anciens coprésidents Rémi Hamet, Michael Zenouda sur les réseaux sociaux où la chicane se poursuit entre les militants d'hier et d'aujourd'hui.
Penses-tu que je suis responsable? Penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois ça, t'es juste insultant. Tiens, pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à joues. Tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail, que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon, faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez, tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je
tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos, car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Si tu veux que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoule. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, con, tellement malade. Complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal.
On vient d'entendre Eddie de Preto et la pièce Normale sur Canal M.
Libre, un amour inavoué pour les cônes oranges. C'est une collaboration de Katia Taubert dans Le Devoir d'aujourd'hui. Pendant des mois, ils vont transformer les rues en labyrinthe infernal au point de donner des maux de tête ou de circuits aux plus intelligents des GPS. Eux, ce sont les cônes oranges. Ravisseurs saisonniers, ils comptent bien prendre en otage nombre de Québécois. Pourtant, atteints d'un sévère syndrome de Stockholm ou de masochisme routier, nombreux sont ceux qui ont développé un amour totalement inavouable pour les cônes oranges, au point de les idolâtrer dans l'intimité même de leur foyer. Prenons par exemple ce modèle cylindrique que l'on retrouve le plus fréquemment aux abords des chantiers, le TRV7. Il est partout. Sur ce coussin nonchalamment déposé sur le canapé, sur cette illustration accrochée au mur du salon, sur des cartes postales, sur votre trousseau de clés, sur la tasse dans laquelle vous buvez votre café chaque matin. Les plus accros sont même allés jusqu'à en chaparder un original sur le trottoir, pour décorer la cour ou le balcon. Mais comment le con orange, tant décrié, s'est-il imposé dans la culture québéco-montréalaise, au point d'en devenir un symbole? Pour l'illustratrice et designer Sarah Darvaux, connu sous le nom de Darvy, le cône orange serait tout simplement rassembleur et matérialiserait un paradoxe culturel. On aime tout ce qui n'est pas le fun à Montréal, car cela nous distingue. Depuis 3 ans, Sarah s'inspire des symboles montréalais pour dessiner des cartes de vœux humoristiques et des illustrations grand format. Parmi ses sujets de prédilection, les cônes oranges, les panneaux de stationnement et les nids de poules. C'est comme une joke typiquement québécoise. Quelque chose de rassembleur, dit-elle. Les gens aiment étrangement avoir ça chez eux. Dans la boutique de souvenirs montréalais Art Pop, située sur le plateau Mont-Royal, les objets en forme de cône orange les plus populaires sont la salière et la poivrière, un design de l'entreprise Main and Local. Quoi de mieux que de souper en râlant sur la congestion routière tout en se défoulant sur la salière? Et qui sont les principaux acheteurs de ces objets dérivés? Les Montréalais, bien entendu, affirme la gérante d'Art Pop, Stéphanie Loisel. Mais aussi ceux qui quittent la métropole. C'est une façon pour eux de se rappeler ce qu'ils aiment et en même temps ce qu'ils détestent de Montréal. Et ainsi matérialiser ce paradoxe amoureux, comme on s'ennuie des défauts d'un amant tant aimé. Quant aux touristes qui fréquentent la boutique, Stéphanie doit régulièrement leur expliquer pourquoi nos cônes oranges sont aussi populaires. Parce qu'il vaut mieux en rire. Pour Andrew Cohen, un des fondateurs de l'entreprise Man & Local, les cônes oranges sont à l'origine de beaucoup de frustrations. Jouer avec est une façon d'atténuer les effets du stress qu'ils procurent. Les artistes travaillent le tissu symbolique. Ils ne font certainement pas que le reproduire. Le cône orange est réapproprié, déplacé, transposé, décontextualisé, déconstruit, détourné, subverti, etc. Certains usages plus décoratifs conservent une charge ironique. Ils ne s'intègrent pas au moins sans un léger décalage ou un jeu spéculaire, observe Louis Jacob, spécialiste des cultures urbaines et professeur de sociologie à l'UQAM. L'illustratrice Tania Miniaka a été jusqu'à créer un personnage de bande dessinée en forme de cône orange, le petit Ponto, P-O-N-T-O, qui quitte sa famille et l'autoroute 30 pour s'installer à Montréal. Au cours de ses aventures, il rencontrera M. Turcot, qui attend patiemment de prendre sa retraite. Il sera même convoqué à la commission Carbonara. Pour Tania, Ponto nous aide à dédramatiser les choses en même temps qu'il crée un sentiment d'appartenance. La personnification du cône orange chez l'illustratrice est inspirée de la culture manga du Yuru, Kiara, dans laquelle une mascotte mignonne sert à promouvoir une ville ou une région. L'objectif était de créer un cône orange tellement adorable qu'on serait obligé de l'aimer, qu'il nous ferait aimer Montréal, explique celle qui a misé sur l'aspect ludique et coloré des cônes oranges qui interpellent notre âme d'enfant. Car notre amour non assumé pour les cônes oranges pourrait-il venir de leur couleur? Dans l'ouvrage « Design », le graphiste et professeur Frédéric Metz associait la couleur orange aux avertissements de danger lors de travaux routiers, mais aussi au luxe et au plaisir jusqu'à la débauche. C'est une couleur tonique qui remonte le moral et pousse à socialiser. Pour Sarah Darvaux, les cônes oranges ont participé à mettre Montréal sur la map. À défaut de voir dans notre ville ses bâtiments, son architecture ou ses avancées technologiques, on voit juste un village orange. On nous voit peut-être même de l'espace, souligne-t-elle. Avis aux extraterrestres, le spot orange fluo en Amérique du Nord, c'est nous. Portrait robot du cône orange. Les cônes oranges, Christian Fay, ou Fay, F-A-Y, vice-président de SMG Signalisation, les côtoie au quotidien. Il ne se dit pas contaminé par cet engouement pour la balise de signalisation. Pourtant, il avoue garder sur son bureau un mini anti-stress en forme de cône orange de 5 cm sur lequel est inscrit « Souvenir de Montréal ». Il a accepté de nous dresser un portrait robot du cône orange. Le TRV-7, c'est le modèle le plus fréquent sur les chantiers de construction. Ses dimensions sont réglementées par le ministère des Transports. Mais d'autres types de balises peuvent être légalement utilisés lors de travaux de courte durée, par exemple. En plastique. Avant l'utilisation de plastique dans la fabrication des cônes oranges, les balises disposées sur les chantiers étaient en métal. Si jamais vous frappiez la balise avec votre voiture, c'était extrêmement dangereux. Alors, le ministère des Transports a voulu supprimer le métal au milieu de la route, explique M. Fay. La nuit, les bandes réfléchissantes permettent d'assurer la sécurité des automobilistes. Une base colorée. La base colorée des cônes oranges en marron, vert ou jaune permet aux entreprises de signalisation de reconnaître leurs cônes sur les chantiers et ainsi d'éviter les vols entre professionnels de la construction. Le prix? Le prix d'un cône orange à l'unité peut varier entre 75 et 110 $ en fonction de la quantité commandée. Cependant, lorsqu'un contrat est conclu avec une entreprise de signalisation, les cônes oranges utilisés sont compris dans le prix de la prestation de service avec l'équipement, la surveillance de l'équipement et son ramassage, précise M. Fay. Attention aux cônes en vue. Le ministère des Transports du Québec a dévoilé au début du mois de mars la liste des principaux chantiers de construction prévus jusqu'en 2020. En voici quelques-uns. Montréal, échangeur d'Orval, autoroute 20, autoroute 520, échéance prévue mars 2018. Structure de l'échangeur Saint-Pierre, autoroute 20, route 138, échéance prévue mai 2018. sécurisation, nettoyage, enlèvement de grillage, réparation de dalles et divers travaux dans les municipalités de Montréal et de Westmount. Échéance prévue en novembre 2018. Échangeur Turcot. Travaux dans la cour du complexe Turcot, reconstruction des rues Saint-Jacques et Saint-Rémy du boulevard Pullman. Échéance prévue, automne 2018. Démantèlement de la structure existante, reconstruction d'un pont à Auban, rue Saint-Jacques, au-dessus de l'autoroute. Échéance prévue, printemps 2019. Travaux de maintien des structures de l'échangeur Turcot de l'autoroute 15, secteur La Vérendrye, de l'autoroute Ville-Marie et travaux connexes, échéance prévue mars 2019. Québec, réaménagement de l'échangeur autoroute 40, autoroute 73, échéance prévue juillet 2018. Et Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau, réaménagement de la route 169 à Alma et des routes 169 et 172 à Saint-Nazaire, échéance prévue décembre 2018. Construction du pont de la route 169 à Dolbeau-Mistassini, échéance prévue décembre 2019, source ministère des Transports, mars 2018. Alors, vous pouvez le constater, on n'a pas fini d'en voir des cônes oranges. C'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens du 3 avril 2018. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, au choix musical, à la mise en onde aussi. Et restez avec nous si vous nous écoutez en direct. J'anime les paractualités dans quelques minutes. À bientôt.